Attends, c'est alors, moi qui commence là ?
Bah, ça sent le fromage là.
Ouais. Bon, allez, on essaye.
On goûte.
Ça colle. C'est élastique, mais c'est pas mal.
Ça sent fort.
Si, si, c'est pas mal. Il y a un petit côté spongieux.
Mais alors, parce que ça a été réchauffé au micro-ondes. J'imagine qu'à l'époque, micro-ondes, on n'était pas trop là-dedans. Hein.
Non.
Pas du tout. On déguste des chromeski ou chromoski.
Oh la vache, c'est fort. C'était du fromage. C'est quoi comme fromage ?
Du Pont-l'Évêque et de l'Emmental. Un mélange de Pont-l'Évêque et Emmental, œuf. Vous faites une petite boulette dans votre main. Et puis ensuite, vous les panez et vous les faites cuire à l'huile, à la friture.
Alors oui, on parle cuisine. Pourtant, on est avec Sandrine Rueffli et Léa Gérardin-Macario. Bonjour toutes les deux.
Bonjour.
On parle pas la bouche pleine. En train de déguster donc des petites boulettes au fromage parce qu'on parle bombance aujourd'hui dans ce mag. Avec le service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy, vous nous proposez des recettes d'époque. Quelle époque ?
On vous propose des recettes de la belle époque, de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Et on va voir ce qu'on mangeait à Paris ou dans le Quercy, à cette époque-là.
Alors là, on a les doigts gras.
Hein. Ça ne va pas être léger, là, aujourd'hui.
Surtout si on commence par ces fameux menus de la belle époque du parisien. Hein, parisien, ou alors dans les menus des milieux aisés quercinois. Avec, entre autres, des chromeski. Ça, c'est un plat qu'on a découvert en consultant un menu de 1892 qui était offert par l'administration au corps médical de la région. Donc là, nous sommes à Fénérol-les-Bains.
Fameux établissement thermal du 19e, début du 20e siècle.
Voilà, qui à partir de 1890, les thermes de Fénérol, ils comprennent un hôtel, un parc, une buvette pour accueillir tous ces curistes. Et puis, on pouvait venir à Fénérol-les-Bains en train, puisqu'il y avait la ligne de train Montauban-Lexos, et on pouvait fréquenter l'établissement du mois de juin au mois d'octobre.
Vous nous replongez là dans le passé à travers donc les cuisines, des soupes, beaucoup de soupes, on va parler beaucoup de soupes, vous avez retrouvé plein de recettes. Alors là, c'est chromeski, qui s'écrivent avec plein de K, très fromagé, ça sent très très fort dans le studio, on a les doigts gras, c'était très bon. Sandrine a réussi à retrouver la recette, les a fait hier soir, nous les a fait goûter là. Vous avez retourné les archives sur le thème ripaille et boustifaille.
Exactement. Et alors, par exemple, à Fénérol, on va vous lire le déroulé du menu et on va voir ce que ça donne. Alors, on commence. C'est parti. Potage à la reine, potage bisque. On passe au hors d'œuvre. Donc les fameux chromoski vénitiennes. Donc c'est là où nous, on s'est déjà arrêté là. On s'est dit chromoski, mais qui donc ?
Mais qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est bon.
Donc une espèce de petite
une croquette.
Entrée. Voilà, une croquette. Une croquette, a priori polonaise, vu le nom. Ensuite, on passe à ce qu'ils appellent un relevé. C'est des truites saumonées et crème d'écrevisse. Finalement, on arrive, accrochez-vous bien, à l'entrée. Qui est un filet de bœuf à la Périgueux ou un gigot de chevreuil. On passe aux légumes. Donc là, vous allez reconnaître un fameux légume qui est la timbale de macaroni. Croûte au mousseron et sorbet au kirsch.
Histoire de faire passer le tout.
Voilà.
Début du repas, du
on
menu.
Pas l'entrée, on vient de finir l'entrée. Oui. Oui. On vient de finir l'entrée, voilà. Et on n'a pas la même conception des 5 fruits et légumes par jour. Hein. Volaille du Mans truffée, ça c'est le rôti qui suit donc la timbale de macaroni et la croûte au mousseron. On finit par un entremet, le millefeuille napolitain. Mais on finit sans finir, puisqu'arrive la pièce montée, suivie de croque en bouche d'orange glacée, nougat glacé, les vins qui vont avec et le café. Voilà, on est donc en 1892.
Et c'est un dîner.
Et c'est un dîner pour les médecins qui viennent à Fénérol-les-Bains. Mais ce déroulé-là, on a fait, donc on a dit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignes de choses à manger. ça sort pas de nulle part, ces menus de grands événements. ça vient en effet du cuisinier escoffier, voilà, le fameux cuisinier parisien.
Le père de la cuisine moderne et qui a travaillé à la fin, à partir des années 1880, qui était cuisinier pour des grands hôtels, l'hôtel Ritz ou encore le Savoy, le Carlton. Et puis, il fait toute une carrière à Paris, à Londres et dans les palaces les plus renommés. Mais on voit que sa cuisine a eu une influence jusqu'en région, évidemment. Hein. Et lui, il nous donne en fait cette espèce de protocole avec des repas très, très protocolaires comme ça, avec des règles formelles où on a pour des dîners, pour des repas, lui, il nous indique 12 plats. Voilà, 12 plats. Alors, nos estomacs aujourd'hui pourraient certainement pas y subvenir à ces 12 plats.
Ça durait très longtemps et puis ils avaient leurs petits alcools entre chaque. Et puis on voit sur une super photo d'archives que vous avez ramenée qu'ils ont chacun donc une carafe, deux carafes même. Alors la carafe de vin et la carafe d'eau, les tables sont immenses, hein, c'est vraiment immense. On est à 2 mètres l'un en face de l'autre sur des tables de quoi ? Ça fait 12 mètres de long ça ?
Oui, ouais, au moins, il y a environ 50 convives, voire plus.
Et les pauvres ont des corsets, les pauvres femmes.
Et oui, là, on est en fait, Lisa, l'image que tu commentes est une image d'Eugène Truta, du photographe Eugène Truta. Et on est à un mariage à Cornusson, au château de Cornusson en 1906. Donc l'image, elle est vraiment représentative de ce qu'on peut lire de ces menus. On est dans l'ambiance, hein, on est dans l'ambiance avec une vaisselle qui foisonne, un peu à l'image des tenues de ces femmes, hein, avec des volants, avec des corsets, oui, là, on imagine bien qu'à ce moment-là, on fait bombance.
Oui, bah pour manger les 12 plats avec un corset, bonjour.
Oui, oui, oui. Et là, chacun a 2 ou 3 assiettes. On n'arrive pas à bien distinguer le nombre de couverts, mais il doit y en avoir un bon nombre. Les verres, c'est pareil, on en voit au moins 3 ou 4 par personne. Voilà, donc là, ils sont partis à table dans la salle à manger, la vaste salle à manger. Ils vont être là pendant des heures pour voir se défiler donc ce fameux... cet enchaînement de plats inventé, entre guillemets, pas vraiment inventé, mais...
Par Gargantua.
Oui, par donc Escoffier, qui a édicté des règles qui obligent, on va dire, quasiment, à ce que les plats se succèdent de cette façon dans les milieux bourgeois de la
vraie protocole.
Voilà, il l'a appelé protocole.
Ça, c'est pour les menus bourgeois, quand même. Donc, au tout début du 19e siècle.
La fin du 19e, tout début du 20e siècle. Et on a un autre exemple de menu de cette période-là, un peu plus tardif, des années 1913. Là, on est à Montauban. Et c'est un banquet qui est donné pour les commerçants et les industriels de Montauban. Et on retrouve aussi cette quantité de plats. Il y en a un qui nous plaît particulièrement parce que nous sommes à Caylus. Mais il faut savoir que durant cette journée-là de 1907, eh bien, les convives, après la timbale de volaille à l'ancienne et les gnocchis à la parisienne, ont pu déguster une poularde de Caussade aux truffes de Caylus.
Les fameuses truffes ici du coin qui sont connues depuis très longtemps et qui avaient une très bonne réputation au 19e et au 20e siècle.
Là, on n'est pas sur du 12 plats quand même.
On n'est pas sur du 12 plats, mais on n'est pas loin. Hein. Alors, 1, 2, 3, 6, 9. 9, c'est des...
Le protocole n'a pas été respecté.
Pas exactement, mais on l'a respecté car nous avons commencé par le potage.
Tout à fait.
Et ce protocole commençait toujours par le potage, puis les hors-d'œuvre. Voilà.
Pourtant, le potage, ça fait très soupe, ça fait très paysan, presque.
Tout à fait. Alors ça, c'est sûr que ces grands dîners-là, c'était, on va dire, l'exception, ou vraiment réservé à une petite classe de population. Mais au 19e et au début du 20e siècle, le repas de tous les jours, c'est la soupe, bien sûr.
Oui, c'est le plat principal, voire unique, hein, souvent, en tout cas pour le soir. C'était le plat unique traditionnelle qui pouvait varier selon les saisons. Mais en général, cette soupe, elle comportait des pommes de terre et des légumes du jardin de saison, ce qu'on avait autour de soi. Et puis, on utilisait aussi beaucoup dans la région les légumes secs. Alors, après, donc, on faisait bouillir de l'eau déjà, avec ces haricots secs. Et puis, juste avant l'ébullition, on y ajoutait de la ventrèche, donc quand même un peu de viande. Et puis, après l'ébullition, on ajoute les pommes de terre et une seconde ébullition et vient tous les autres légumes, les poireaux, les carottes, etc. Et enfin, on recouvre le tout de choux. Voilà, si vous voulez manger la soupe traditionnelle qui était le dîner, le souper incontournable des gens d'ici, voilà, et le plus fréquent, le plus récurrent.
Et on a cherché un petit peu dans les témoignages de cette époque-là, donc de la fin du 19e siècle, et l'instituteur Sébastien Bourjol, qui est né en 1875 et dont les parents étaient des cultivateurs, donc des agriculteurs, des petits agriculteurs, même pour être précis. Donc il raconte, lui, dans ses mémoires, par exemple les conditions matérielles dans lesquelles vivaient ses parents, qui étaient métayers, donc ils mettaient en valeur les terres d'un propriétaire terrien. Et ils ont droit, en gros, à une part des récoltes. Métayer, normalement, ça veut dire la moitié. Mais dans les faits, des fois, cette part, elle varie. Et donc, il énumère comme ça ce à quoi ses parents ont droit lorsqu'ils travaillent pour une famille de propriétaires. Donc, ils ont 200 francs par an, plus une barrique de vin, une deuxième barrique de vin, de la piquette à volonté. Ensuite arrivent donc les haricots secs, les pommes de terre, le blé pour faire le pain. Ils ont ensuite droit à cochon, canard ou oie élevé à moitié, donc 1 sur 2. Poulet, ils ont droit à 1 sur 10. Les œufs, ils ont droit à 1 sur 2. Lapin à volonté. Légumes frais et verts à volonté. Fruits aussi à volonté. Et ensuite, ils sont logés et chauffés. Et en fait, dans cette énumération, vous voyez qu'on retrouve complètement la recette de la soupe de base des campagnes. Donc les haricots, les pommes de terre, les fruits, les légumes, pardon, verts à volonté. Et donc il y a un lien vraiment direct entre les conditions matérielles de vie des gens à l'époque et le repas traditionnel. Et Sébastien Bourjol, il nous raconte aussi, voilà, un extrait de ses cahiers. Il raconte enfant, il se souvient des soirs avec ses parents et il dit « Aussitôt après souper, repas toujours frugal, sans vin, sans dessert, donc on est loin des menus d'escoffier, hein, on se remettait au travail. Mon père bâtissait des paniers en osier, des clés pour sécher les prunes au four, il ajustait des manches pour ses outils, fabriquait des fourches, des râteaux, et ma mère cousait ou surtout filait au rouet. » Donc voilà l'ambiance, on est vraiment aux antipodes de nos soirées bourgeoises à 12 plats.
Mais il y avait quand même, tu parles de soirée Léa, il y avait parfois, c'était pas souvent apparemment, mais parfois il y avait des veillées, des soirées au coin du feu. Et il raconte encore qu'à ce moment-là, venaient les voisins pour cette veillée et ils mangeaient des châtaignes en buvant de la piquette. C'est alors que l'on racontait des histoires merveilleuses et mensongères. Toutes sortes d'histoires racontées au coin du feu avec ces châtaignes et cette piquette. Ça fait deux fois qu'on retrouve ce mot piquette, qui n'est pas du mauvais vin, comme on l'entend aujourd'hui, mais qui était un vin léger, en fait. C'était de l'eau qui était... Enfin, c'était obtenu, la piquette, en déposant de l'eau sur le marc de fruits, et ça faisait, on obtenait un vin qui était à 5-6 degrés au lieu d'avoir un vin à 12, 13, 14 comme on l'a aujourd'hui. Donc la piquette était bue assez régulièrement dans ces milieux et à cette période.
Ça, c'est les repas du quotidien que vous venez de nous dire. En ces périodes de fête, là, est-ce qu'il y avait des particularités ?
Oui, tout à fait. On trouve beaucoup de, enfin quelques témoignages des repas des périodes de fête, même si la plupart des témoignages disent que c'est pas du tout Noël comme nous on le fait aujourd'hui. Il n'y a pas le sapin décoré, il n'y a pas les chocolats, tout ça. Mais par exemple, on a trouvé donc un repas de fête à Molière. Donc ils nous disent, on fait bouillir la soupe. Évidemment, la soupe, elle est incontournable. On fait bouillir la soupe, cuire les cèpes et un veau en sauce. Donc ça, c'est le menu du repas de fête. Et en dessert, l'exotisme s'invite à la table puisque ce sont des oranges en rondelles dans le vin blanc. Voilà, ça, c'est vraiment le repas de fête paysan. Et guère plus, si ce n'est pour la veillée qui s'ensuit du repas de fête à Molière. Ils nous disent donc finir la journée avec un vin chaud. Et le vin chaud est accompagné évidemment de saucissons et de gratavelles. Donc les gratavelles, ce sont apparemment des gratons. On a essayé d'enquêter, mais c'était... Parce que nous, on n'est pas du tout... occitaniste.
Et on parle pas le patois et on s'excuse d'avance pour nos prononciations.
Mais donc ces fameux gratavelles sont des gratons ou sortes de rillettes qu'on mange donc avec le vin chaud au coin du feu un soir de Noël.
Petite gourmandise salée. Et puis parfois, lorsqu'on rentrait de la fameuse messe de minuit, et durant cette messe de minuit, les familles mettaient au coin du feu une sorte de ragoût de Noël qui mijotait et qui était un ragoût de bœuf. Voilà, c'était un plat qui était, un plat de fête qui était dégusté au retour de la messe de minuit.
On a trouvé comme nom l'eau confidore de bœuf. Ça a l'air d'être bien confit.
Exactement. On est quand, là ?
Et là, alors ça, c'est des traditions orales qui se sont un peu perpétuées. C'est des témoignages qui ont été recueillis dans les années 90 de personnes âgées. Donc, c'est des traditions qui sont déjà là au milieu du XXe siècle et au début du
XXe siècle. Oui.
Et dernier petit événement, on va dire, dans la vie campagnarde aussi, qui peut donner lieu à un plat spécial, c'est quand on tue le canard ou les oies.
Voilà. On faisait à ce moment-là, c'était l'occasion de faire ce plat qui est l'alicote.
Attention, rien à voir avec l'aligot. Hein.
Oui, à ne pas confondre avec l'aligot surtout.
On a essayé de le prononcer comme il fallait, on s'est entraîné en roulant des R qui n'existent pas. Donc, visiblement, on ne dit pas aligot. On ne va pas le faire.
Non, on ne tente pas. Mais vraiment, si on énumère si on décrit ce qu'est ce plat, les gens le reconnaîtront. Le reconnaîtront certainement. Donc, c'était des carcasses d'oies et de canards, et des abats également, qui étaient mis à rissoler avec des carottes et des pommes de terre. Donc, ce qui faisait une sorte de ragoût. Et ensuite, il y avait une sauce qui était ajoutée. Et ce plat était fait chaque fois que les familles tuaient les canards, et un peu plus régulièrement. C'était un plat qui, apparemment, d'après les témoignages, était courant dans les familles du coin, et que chacun agrémentait un petit peu
à sa façon, à sa sauce,
en ajoutant même parfois des olives. On a entendu aussi de la sauce tomate. Enfin bon, ça, c'est plus récemment, les tomates.
Mais ça, voilà. c'est les traditions recueillies à la boulangerie auprès des personnes âgées actuelles.
Aussi. Ouais. Et c'est un plat qui, d'ailleurs, apparemment se mange moins aujourd'hui, mais il y a encore une dizaine d'années, voilà, c'était un plat courant. C'est parti des menus des familles du pays mi-Quercy.
Prochain ouvrage sur la cuisine, alors ?
Pourquoi pas ?
Ouais,
on est bien parti.
Puisque vous avez publié encore tout récemment un ouvrage autour de la belle époque en pays mini-Quercy à l'ouest de Tarn-et-Garonne, j'imagine que certaines des recettes que vous avez proposées là aujourd'hui dans ce mag du pays mini-Quercy ont été trouvées dans le cadre de ces recherches que vous faites au quotidien. D'ailleurs, on peut encore là vous contacter si on a un petit trésor dans une malle au grenier, à la cave. Vous ça fait partie de votre travail de venir fouiller notre quotidien, notre passé.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, les menus, on n'en a énuméré que quelques-uns, mais effectivement, on les a découverts aux archives départementales, et il y en a bien d'autres qui sont consultables, des menus de cette période, mais des menus un peu plus récents, des années 30, 40. Et c'est toujours intéressant, mais vraiment passionnant, de voir aussi l'évolution de nos assiettes, en fait, et de notre quotidien, de notre façon de vivre et de manger. Donc on ne peut que vous inviter à aller aux archives départementales, à nous faire part si vous, effectivement, vous avez aussi des archives dans vos malles, n'hésitez pas à nous le faire savoir ou alors de contacter les archives directement ou de passer par nous, par le service inventaire du pays Midi-Quercy. Et cette émission est en quelque sorte, oui, un complément. On n'a pas parlé des recettes de cuisine dans l'ouvrage de la Belle Époque à l'Est de Tarn-et-Garonne, mais c'est un peu un complément de cet ouvrage. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. N'hésitez pas à vous inspirer.
Du Kromski. Non, du quoi ? Il reste
Kromski.
Des Kromski. Des Kromski et des 12 autres plats d'Escoffier.
Et de la
bonne appétit.
Voilà. Et puis, n'hésitez pas, plat phare d'Escoffier que tout le monde connaît encore aujourd'hui, c'est la.
La pêche Melba.
Alors, pour la petite histoire, Léa, dis-nous d'où vient ce nom de pêche Melba.
Alors, la pêche Melba a été créée pour une célèbre cantatrice australienne, Nelly Melba.
Et ce, par Monsieur Auguste Escoffier.
Merci beaucoup.
Bon appétit à tous.
Bon appétit. Vous aussi, faites bombance.
Et Léa Gérardin-Macario pour le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. Merci.
Merci, Lisa.